Bienvenue dans ce podcast qui vous emmène à la découverte du patrimoine culturel et historique de la région de Mons. Dans ce premier épisode, Van Gogh de l'homme à l'artiste, c'est au travers du regard de l'artiste que nous découvrons la région minière du Borinage. Vincent Van Gogh. À la simple mention de ce nom, déjà des images traversent votre esprit. Une nuit d'un bleu profond où tourbillonnent des étoiles brillantes, quelques tournesols dans un vase ou un homme à l'oreille coupée. Mais ce peintre maudit à l'enfance difficile et à la vie jalonnée d'épreuves, tant pour lui que pour ses proches, n'a pas toujours été le génie post-impressionniste que nous connaissons. Avant le peintre, il y avait le jeune évangéliste qui, un jour d'hiver neigeux, posa ses valises dans la région minière du Borinage, un des premiers sites industriels d'Europe. C'est ici, les pieds dans la suie et le cœur sur la main, que l'homme deviendra l'artiste. Mais n'allons pas trop vite. Notre histoire commence le 30 mars 1853 à Grote-Zundert, un petit village du sud de la Hollande, un an jour pour jour après la naissance d'un enfant mort-né qui s'appelait Vincent. Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh se construit donc sur les ruines d'un homonyme fraternel disparu trop tôt. Et chaque année, le jour de son anniversaire, toute la petite famille se rend sur la tombe qui porte son nom pour rendre hommage à ce frère qu'il n'a jamais connu et dont il porte le nom. Vincent a beau être l'aîné de sa fratrie, tout au long de sa vie, c'est son cadet, Théo, qui veillera sur lui et c'est d'ailleurs dans ses bras que le peintre mourra à 37 ans. Issu d'une famille de pasteurs mais aussi de marchands d'art, Vincent baigne dès son plus jeune âge dans la religion et la peinture. À 16 ans, il part pour La Haye et devient apprenti chez Goupil & Company, fondé par un de ses oncles. Ici, on vend des tableaux, des dessins et des reproductions. Le jeune Vincent est une éponge qui apprend tout ce qu'il peut de son patron, Hermanus Tørstig. Mais après 4 années à ses services, il est envoyé dans la succursale londonienne de Goupil & Company. Outre-Manche, Vincent vit sa meilleure vie et tombe amoureux d'une certaine Eugénie Loyer, fille de sa logeuse. Malheureusement, le jour où il trouve le courage de lui confier son amour et la demander en mariage, elle le repousse. Quelque temps après cet échec amoureux, il est muté une nouvelle fois, direction Paris. Là-bas, sa ferveur religieuse se développe à mesure que son intérêt pour le marchandage de l'art diminue. Effrayant les clients par son attitude, le 1er avril 1876, 7 ans après son arrivée chez Goupil & Company en tant qu'apprenti, il est remercié. Après cet échec professionnel, Vincent s'essaiera à plusieurs métiers en Angleterre et aux Pays-Bas, parfois sous l'impulsion de son père, mais ses aventures tournent souvent au désastre. Sa foi, qui le guide toujours, le pousse alors à intégrer le collège flamand des évangélistes à Laeken, près de Bruxelles, pour devenir pasteur évangéliste. Il est là pour une période d'essai de 3 mois qui se conclura par un examen. Malheureusement pour le jeune Vincent qui n'a jamais aimé la théorie, il échoue. Enchaînant les échecs professionnels, amoureux et scolaires, il finit par abandonner les études de théologie. Son père s'inquiète, ne sachant plus que faire de ce fils qui ne trouve pas sa place dans le monde adulte. Mais ses déceptions ne viendront pas à bout de la vocation de Vincent. Il veut rejoindre une communauté protestante et devenir évangéliste pour prêcher la bonne nouvelle auprès des classes ouvrières. Les livres de géographie qu'il dévore finissent de le convaincre, tirant le portrait d'une contrée dure mais faite de gens heureux. Il partage d'ailleurs son enthousiasme avec Théo quelques jours avant son départ. J'ai trouvé ceci et d'autres choses à leur sujet dans un livre de géographie. Les Borins, les habitants du Borinage, une région située à l'ouest de Mons, ne font rien d'autre que d'extraire du charbon. C'est un spectacle impressionnant. Ces mines de charbon ouvertes à 300 mètres sous terre, dans lesquelles descendent chaque jour une population active, digne de notre respect et de notre sympathie. Le charbonnier est un type particulier au borinage. La lumière du jour existe à peine pour lui, et il ne profite guère des rayons du soleil que le dimanche. Il travaille à grand-peine, à la lumière d'une lampe dont l'éclairage est pâle et faible, dans une galerie étroite, le corps courbé en deux et parfois obligé de ramper. Son travail consiste à tirer des entrailles de la terre cette substance minérale dont on connaît la grande utilité. Il travaille donc au milieu de mille dangers sans cesse renouvelés. Mais le contremaître belge a un caractère gai. Il est habitué à ce genre de vie. Et quand il descend dans la fosse, son chapeau surmonté d'une petite lampe dont le rôle est de le guider dans l'obscurité, il s'en remet à son Dieu qui voit ses travaux et qui le protège, lui, sa femme et ses enfants. Mais si Vincent espère avoir trouvé sa place lorsqu'il posera ses valises dans l'ancienne gare de pâturage, aujourd'hui commune de Colfontaine, la réalité contredira rapidement le fantasme. Nous sommes un peu avant Noël. La neige a recouvert la région et cache sous son fin manteau blanc la noirceur de la cendre qui recouvre tout, les rues, les maisons et les visages. Un jeune homme de 25 ans, le visage pâle, les cheveux roux en bataille, une petite valise à la main, descend du train à la gare de pâturage. Benjamin van der Hagen, évangéliste colporteur dans la région, l'accueille. Vincent s'est donné une mission. Évangéliser la région. Et bientôt, grâce au soutien d'Abraham van der Weyen-Petersen, il obtient un contrat de prédicateur à l'essai de 6 mois. L'image d'une région presque mirifique, emplie de travailleurs heureux d'accomplir leur labeur quotidien qu'il avait lu dans les livres de géographie, fondra comme la neige au soleil. Pourtant, il ressent immédiatement un attachement et un émerveillement profond pour la région et ses habitants. Et s'il écrit à son frère dans la lettre 149 qu'ici les gens ne savent même pas ce qu'est un tableau, tout lui semble pourtant si empreint d'art. « Je n'ai absolument rien vu en matière d'art depuis mon départ de Bruxelles. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un pays très spécial et pittoresque. Tout parle, pour ainsi dire, et est plein de caractère. Il y a ici des chemins creux, envahis de buissons d'épines et de vieux arbres tordus avec leurs racines noueuses qui ressemblent exactement à ce chemin dans la gravure de Dürer, Le Chevalier et la Mort. Ces derniers jours, par exemple, c'était un spectacle extraordinaire avec la neige blanche, le soir, à l'heure du crépuscule, de voir les ouvriers revenir des mines. Ces gens sont complètement noirs lorsqu'ils sortent des mines sombres pour revenir à la lumière du jour. Ils ressemblent à des ramoneurs. Après quelques jours passés chez Benjamin, Vincent refermera sa petite valise pour s'installer dans un logement plus permanent au 81 rue du Petit Ouham, aujourd'hui rebaptisé rue Wilson, chez un agriculteur du nom de Jean-Baptiste Denis à Ouham. C'est ici que son aventure commencera vraiment. Chapitre 2. Van Gogh et la petite maison rouge. Dans cette petite maison rouge qui ressort du paysage vert et cendre, vivent Jean-Baptiste Denis, sa femme et leurs enfants à qui Vincent donnera cours pour diminuer le coût du loyer de la petite chambre qu'il occupe à l'étage. Très vite, Vincent fait plus que ce qu'on attend de lui. Il prend une part active dans la vie de la communauté et dans les luttes sociales des Borins, prenant la parole à de nombreuses reprises, au Salon du bébé, entre autres, comme il l'explique à son frère dans la lettre 149. « J'ai déjà parlé ici à diverses reprises, tant dans une salle assez grande, spécialement aménagée pour les réunions religieuses, que dans des réunions qui se tiennent habituellement le soir dans les maisons ouvrières et que l'on peut appeler au mieux des lectures bibliques. » Que la bénédiction de Dieu fasse que je sois placé ici en permanence. Je le souhaite sincèrement. La journée, Vincent remplit les obligations de sa mission, visitant les malades et faisant des lectures bibliques. Et pendant ses temps libres, il dessine. Mais on est encore loin des terrasses irradiantes dans une nuit bleu roi. Il dessine des cartes de la Palestine ou des esquisses de la famille Denis. Vincent, dont la ferveur ne cesse de croître, désire de plus en plus vivre à l'image de ceux qu'il est venu guider. Ainsi, il se défait progressivement de tout ce qu'il possède et donne ses vêtements aux plus pauvres. Une abnégation et un dénuement qui ne sera pas toujours compris par les Borains, eux qui luttent sans cesse pour améliorer leurs conditions de vie. Le 17 avril 1879, une explosion retentit au charbonnage de la Grappe à Frameries. La détonation résonne dans toute la région. Vincent s'y précipite. Il arrive au milieu d'un véritable champ de bataille. On sort des corps inertes, d'autres hurlant à l'agonie. Secouant sa sidération, le jeune évangéliste se met en action. Loin de se contenter de son rôle de prédicateur, priant pour le salut des mineurs, il soigne les blessés et déchire ses dernières chemises bourgeoises pour panser les plaies des grands brûlés. 121 morts. C'est le bilan de cette terrible tragédie que Vincent décrira dans les lettres à ses proches et dont le récit marquera son père. Ce dernier écrira à Théo: « C'est vraiment émouvant, ce terrible accident. Et je viens de lire dans le journal qu'il a été suivi d'une grève. J'espère que cela ne créera pas de difficultés pour Vincent. Quelle situation pour ces personnes enterrées vivantes comme ça, sans aucun espoir d'être secourues à temps. Il semble, d'après les lettres de Vincent, que malgré toute l'excentricité qui est sa nature, il s'intéresse vraiment aux malheureux. Et cela aussi sera sûrement remarqué par Dieu. » Chapitre 3. Van Gogh et la descente de Marcas. En avril 1879, quelques jours à peine avant l'explosion de la Grappe qui le marquera si profondément, Vincent s'était rendu à la mine de Marcas, l'un des plus anciens sites miniers du Borinage, dont les murs fébriles tiennent encore aujourd'hui au milieu de la verdure. Accompagné d'un mineur qui travaille depuis 33 ans, Vincent embarque dans la petite cage métallique ébranlante et descend avec une lenteur extrême les 700 mètres qui séparent la surface du plus profond tunnel. Il en fera le récit poignant à son frère Théo dans sa lettre 151. « J'ai fait une excursion très intéressante il n'y a pas longtemps. Le fait est que j'ai passé 6 heures dans une mine. » Dans l'une des mines les plus anciennes et les plus dangereuses de la région, qui s'appelle Marcas. Cette mine a mauvaise réputation parce que beaucoup y meurent, que ce soit en descendant ou en remontant, par suffocation, par explosion de gaz, ou à cause de l'eau dans le sol, ou à cause de vieux passages qui s'effondrent. C'est un endroit sombre, et à première vue, tout ce qui l'entoure a quelque chose de lugubre et de mortel. Descendre dans une mine est une affaire désagréable. Dans une sorte de panier ou de cage, comme un seau dans un puits. Mais un puits de 500 à 700 mètres de profondeur, de sorte qu'en bas, en regardant vers le haut, la lumière du jour semble à peu près aussi grande qu'une étoile dans le ciel. Cette mine a 5 étages, dont les 3 supérieurs sont épuisés et abandonnés. On n'y travaille plus parce qu'il ne s'y trouve plus de charbon. Si quelqu'un essayait de faire un tableau des maintenages, ce serait quelque chose de nouveau et d'inuit, ou plutôt de jamais vu. Imagine-toi, une série de cellules dans un couloir plus étroit et bas, étayé par une charpente rudimentaire. Dans chacune de ces cellules, un ouvrier dans un vêtement de toile grossière, malpropre et souillé comme un ramoneur en train de détacher le charbon à la faible lueur d'une petite lampe. Dans chacune de ces cellules, un ouvrier dans un vêtement de toile grossière, malpropre et souillé comme un ramoneur, en train de détacher le charbon à la faible lueur d'une petite lampe. Cette fascination qu'il nourrissait déjà pour la région et ses habitants sera décuplée par cette descente dans les entrailles de la terre. Et dans la même lettre, il écrira également « Les villages d'ici ont quelque chose d'abandonné, de calme et d'éteint. » Parce que la vie se déroule sous terre plutôt qu'en surface. On peut rester ici pendant des années, mais à moins d'être descendu dans les mines, on n'a pas une idée claire de ce qui se passe ici. « Sa descente dans la mine de Marcas et la tragédie de la grappe le confortent dans ses convictions et dans une volonté presque dévorante et obsédante de vouloir faire partie intégrante du borinage. Vincent trouve alors trop de confort à la petite chambre qu'il loue à la famille Denis et il se trouve une cabane vétuste pour y vivre dans la plus grande simplicité. Son choix sera mal compris par sa hiérarchie qui attend de lui qu'il montre l'exemple. Par les mineurs qui ne comprennent définitivement pas cet être original, presque trop dévoué aux français élaborés, aux prêches maladroits, et par son père qui ne sait plus quoi faire de ce fils de plus en plus marginalisé. D'ailleurs, quand il l'apprend, sans doute aussi inquiet que furieux, le père de Vincent prend la route pour le borinage, bien décidé à convaincre son fils de revenir dans la maison des Denis à Wam. Mais l'intervention de son père ne suffira pas pour assurer le poste de Vincent. Le comité flamand des évangélistes, inquiet, ne reconduit pas sa nomination. Une nouvelle fois, Vincent fait sa valise. Cette fois, il s'installe chez le pasteur et mineur Édouard Franck, qui officie à Couëm. C'est une période difficile pour lui, comme en témoigne l'absence de correspondance avec son frère Théo pendant presque un an. Mais une chose est sûre. Vincent a sorti la petite boîte d'aquarelle envoyée cet été-là par Torsteek, son ancien patron chez Goupil & Company, et il se met à dessiner. Il dessine tout, et surtout la vie quotidienne du borinage. Chapitre 4. La maison Van Gogh. Cela fait quelque temps que Vincent s'est installé à Couëm. Il loge maintenant dans la maison des De Kruk, qui abrite aujourd'hui un musée dédié à son passage dans le borinage. La maison Van Gogh de Couëm. Quand il reprend sa correspondance avec Théo dans la lettre 153 du 5 août 1879, il lui parle de ses heures passées, le crayon à la main, à tenter de capturer les scènes de la vie au borinage qu'il voudrait ne jamais oublier. « Je reste souvent assis à dessiner, jusque tard dans la nuit pour avoir quelques souvenirs et pour renforcer les pensées qui viennent automatiquement à l'esprit en voyant les choses. » Vincent prend l'habitude de glisser des croquis dans ses lettres, comme autant de photos souvenirs de son voyage. Et Théo, qui le reçoit toujours avec plus d'enthousiasme, prend conscience du potentiel artistique de son aîné, finissant par lui donner un conseil, se consacrer à son art. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour Vincent, qui est maintenant convaincu de pouvoir servir Dieu en tant qu'artiste. Alors, depuis la petite chambre qu'il partageait avec les enfants de la maison, il employa chaque morceau de papier qu'il avait en sa possession pour dessiner. Plongé dans des manuels, de jour comme de nuit, il apprend la perspective et s'entraîne en copiant les travaux d'artistes qu'il admire, tout en croquant, dès qu'il en a l'occasion, ce qu'il aime par-dessus tout dessiner, les scènes de vie, les gens, les travailleurs. Car si la passion et l'envie étaient là, Vincent le savait, il lui fallait encore tout apprendre. Mais cette passion dévorante l'emmène progressivement sur une autre voie et la petite maison ouvrière des De Kruk devient inconfortable pour cet ancien prédicateur devenu artiste qui n'a qu'une seule envie, assouvir sa soif de connaissance et de maîtrise comme il l'explique à Théo dans la lettre 158. Elle est déjà très petite, puis il y a deux lits, celui des enfants et le mien. Et maintenant que je fais les bargues, feuilles assez grandes, déjà je ne saurais te dire combien je suis peiné. Je ne veux pas gêner les gens dans leur ménage. Sa décision est prise. Vincent retourne à Bruxelles, puis aux Pays-Bas, avant de partir vers la France, quittant cette terre qu'il espérera toute sa vie retrouver parce qu'il s'y sentait chez lui. Les visages burinés et couverts de suie, les entrailles de la terre et la chair blessée, les hommes et les femmes qu'il a rencontrés ici, c'est tout cela qui révélera l'artiste à l'homme. Empli de ses visions, de ses textures, de ses couleurs et de ses émotions, Vincent Van Gogh retourne au monde de l'art, mais cette fois en tant qu'artiste, pour y développer son regard unique sur le monde. Et alors qu'il prépare son départ, il parle déjà avec nostalgie de son séjour au pays des Borins. Les mineurs et les tisserands sont une race à part des autres ouvriers et commerçants. Mais j'ai pour eux une grande sympathie et je m'estimerais heureux si je pouvais les dessiner un jour afin que ces types, encore inédits ou presque inédits, soient mis en valeur. Et maintenant, cela fait à peu près 2 ans que je vis avec eux et dans une certaine mesure, j'ai appris à connaître leur caractère original, principalement celui des mineurs du moins. Et de plus en plus, je trouve quelque chose de touchant et même de déchirant dans ces pauvres et obscurs travailleurs, les plus bas de tous, pour ainsi dire, et les plus méprisés, que l'on se représente habituellement par l'effet d'une imagination peut-être vive, mais très fausse et injuste, comme une race de criminels et de brigands. Il y a des criminels, des ivrognes, des brigands ici comme ailleurs, mais ce n'est pas du tout le vrai type. Je ne saurais vous dire à quel point je suis heureux de m'être remis au dessin. J'y pensais déjà depuis longtemps, mais j'ai toujours considéré la chose comme impossible et hors de ma portée. Mais maintenant, tout en ressentant à la fois ma faiblesse et ma dépendance à l'égard de beaucoup de choses, j'ai retrouvé ma tranquillité d'esprit et mon énergie revient de jour en jour. Finalement, on ne sait qui a le plus marqué l'autre entre le borinage et l'artiste. Et si sa vie l'emmène loin des mines, son cœur restera toujours auprès des borins, de ceux qui l'ont hébergé, aidé et inspiré. Comme il l'écrit à son ami Eugène Bosch, 2 ans avant sa mort dans sa lettre 693. « Si vous allez un jour au Petit Wham, voudriez-vous vous renseigner pour savoir si Jean-Baptiste Denis, fermier, et Joseph Quinet, mineur, y habitent encore ?» et leur dire de ma part que je n'ai jamais oublié le borinage et que j'aurai toujours le souhait de les revoir. Vous venez d'écouter l'épisode Van Gogh de L'Homme à l'artiste, un podcast de Visite Mons. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site visitemons.be.